RCF.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur RCF Vendée. RCF Vendée, vous le savez, première radio chrétienne et de proximité en Vendée. Notre invité ce soir a passé 24 ans dans la franc-maçonnerie, dans la loge du droit humain. Un parcours franc-maçon parallèle à son cheminement spirituel qui va le mener vers une véritable conversion au Christ. Après avoir publié en 2014 aux éditions Teki « J'ai frappé à la porte du temple », dans lequel il raconte ce parcours, notre invité aujourd'hui vient de publier, toujours chez le même éditeur, un second livre intitulé « Je servais Lucifer sans le savoir », dans lequel il témoigne de l'emprise occulte que peut exercer la franc-maçonnerie sur ses propres membres et sans qu'ils en aient réellement conscience. Il évoque aussi son influence sociétale au sein de la politique. Serge Abad-Gaillardo, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct sur RCF Vendée. Vous êtes notre invité ce soir puisque vous êtes invité par la pastorale des étudiants de Vendée pour intervenir devant les étudiants mais aussi devant un public plus large en ce mercredi 21 novembre à partir de 20h30, donc au 10 rue de la Fontaine à La Roche-sur-Yon. Alors avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, dans le contenu de votre dernier livre, je le disais qui vient tout juste de sortir mais il est quand même sorti en 2017, donc il y a une petite année, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur votre parcours, l'histoire de votre conversion?
Ça va être difficile de le faire rapidement, mais je vais m'y employer. En fait, je suis d'une famille catholique, j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, mais plus par tradition que par engagement dans l'Église. Et je suis resté très longtemps loin de l'Église, loin de la foi. Je peux même dire que j'avais perdu la foi. C'est dans ces conditions que, vers l'âge de 35-36 ans, je suis entré en franc-maçonnerie. Et j'y suis resté, comme vous l'avez dit, à peu près 24 ans. Et j'ai quitté la franc-maçonnerie lorsque j'ai retrouvé la foi.
Et ça, c'était quand, à peu près?
Je devais avoir dans les 57 ans. Il doit y avoir 6 ans de ça.
Et comment s'est fait cette redécouverte de la foi?
Pour faire un petit peu d'humour, mais en même temps, tout en restant dans la réalité, par la grâce de Dieu.
Vous voulez pas en dire plus, non? Il y a quand même
si,
je peux, souvent je peux, la grâce de Dieu.
Je peux en parler, mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à l'exprimer. C'est assez personnel et intime, mais pour faire rapide, à l'occasion d'une prière du rosaire à Lourdes, à l'époque, je recommençais à avoir la foi timidement. Donc j'avais appris la prière du rosaire et priant devant la grotte de Massabielle. Et il est arrivé un événement assez fort, et à partir de là, j'ai retrouvé une foi extrêmement fervente.
Alors, en lisant ce deuxième livre, sans avoir lu le premier, je le reconnais, j'étais assez étonné, justement, de voir que vous étiez catholique et que il y avait un cheminement spirituel vers la foi chrétienne en même temps que vous grimpiez les échelons de la franc-maçonnerie, puisque vous le dites, bah, par exemple, là, j'étais à une réunion de la loge et ce qui a été dit là m'a choqué pour telle ou telle raison, et souvent pour des raisons de votre foi chrétienne, qui tiennent à la foi chrétienne.
En fait, cet épisode auquel vous faites référence est intervenu dans un second temps, ou je dirais dans le dernier temps de ma vie maçonnique. C'est à partir du moment où j'ai retrouvé la foi que j'ai commencé à comprendre d'abord cette incompatibilité à être franc-maçon et catholique, même chrétien au sens large, et dans le même temps que j'ai ressenti cette espèce de, comment dire, de moment où j'ai été choqué, en fait, par certaines déclarations. Donc, préalablement à cette période-là, je peux dire que j'avais perdu la foi. Donc, le parcours maçonnique ne m'a pas gêné. Je peux même dire que j'y étais relativement bien. En franc-maçonnerie, il n'y a pas que de mauvaises choses. En tout cas, il n'y a pas que des choses discutables. Et, il y a des gens parfois très sympathiques. Mais c'est surtout vers la fin de mon parcours que j'ai commencé à réaliser le danger que pouvait représenter la doctrine maçonnique pour le salut de l'âme.
Et est-ce que c'était à ce moment de Lourdes où vous avez commencé à réfléchir après Lourdes?
Tout à fait, après Lourdes. Je situe très précisément cet événement, puisque ça m'est arrivé en avril 2012. Déjà, je commençais à me poser des questions.
Ouais. Parce que j'allais vous demander, qu'est-ce qui vous a poussé vers Lourdes quand même?
Ma foi est revenue progressivement. Ouais. Je crois qu'il y a eu un appel du Seigneur auquel j'ai résisté longtemps parce que j'ai la nuque raide, comme on dit dans la Bible, et que j'ai la tête dure. Et puis peut-être aussi que la doctrine maçonnique était très très importante pour moi à l'époque, et qu'elle m'empêchait peut-être de discerner certaines choses. Lourdes a été, je dirais, comme une révélation. Mais ça partait de beaucoup plus loin, effectivement.
Qu'est-ce qui vous a poussé quand vous aviez la trentaine? Vous êtes architecte de profession. Qu'est-ce qui vous a poussé à frapper à la porte du temple? Je crois que c'est vous qui avez demandé et vous avez fait ces rencontres-là. Mais qu'est-ce qui vous attirait dans la franc-maçonnerie? Vous le dites dans votre premier livre que j'ai tout de même parcouru. Vous n'y connaissiez pas grand-chose à part que c'était un peu un cercle d'initiés, qu'il y avait un peu des secrets, du symbolisme. Ça vous attirait, ça, sans en savoir plus?
Alors, je n'ai pas fait la démarche personnelle d'aller vers la franc-maçonnerie. J'ai fait comme 80 ou 90% des francs-maçons, c'est-à-dire que j'avais un ami, une connaissance, quelqu'un qui m'était proche, qui était franc-maçon, voilà, et dont j'ignorais complètement l'appartenance. Et lui m'a proposé d'entrer en franc-maçonnerie, et il est vrai que l'aspect ésotérique, le cheminement vers la connaissance, la possibilité d'avoir des réponses existentielles sont des éléments qui m'ont convaincu d'entrer en franc-maçonnerie. C'est vrai qu'à l'époque, et je crois pouvoir le dire pour la plupart des personnes qui se sentent catholiques, je ne dis pas qu'ils le sont, mais qui se sentent catholiques et qui entrent en franc-maçonnerie, je crois que ce sont des personnes qui, comme j'ai pu l'être, étaient éloignées de la foi véritable. Et cet éloignement crée un vide spirituel. Dès lors que l'âme est vide, eh bien elle cherche quelque chose qui peut la combler. Et elle pense, à mon avis à tort, que la franc-maçonnerie peut lui apporter ce dont elle a besoin en matière spirituelle.
Alors on va y revenir dans quelques instants, mais je voudrais revenir sur le fait que vous nous disiez qu'il y avait donc des catholiques qui s'engageaient dans la franc-maçonnerie. Donc finalement, c'était des catholiques peut-être de tradition, comme vous l'étiez, et qui se sont éloignés de la foi, justement. Mais est-ce qu'on peut revenir un peu sur la franc-maçonnerie et ses différentes facettes? Je crois qu'il y a aussi, il existe des loges déistes, des loges non-déistes, des loges peut-être même chrétiennes, et qu'il y a aussi des catholiques peut-être fervents qui sont engagés dans la franc-maçonnerie, non?
Oui, mais déjà la première chose à dire, c'est que les catholiques qui s'engagent en franc-maçonnerie sont sur un mauvais chemin. Les loges qui se disent chrétiennes, voire certaines se disent christiques, participent d'une sorte d'imposture, parce qu'on ne peut pas être franc-maçon et catholique, c'est clair, je le démontre facilement, et d'ailleurs l'Église, bien avant moi, l'a démontré.
Tous les papes, hein, depuis Léon XIII,
tous
je
les
crois,
papes, tous les papes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que
le caractère incompatible de la franc-maçonnerie.
Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'incompatibilité d'être catholique et franc-maçon ne résulte pas seulement d'un problème, je dirais, législatif. C'est-à-dire, ne résulte pas que de la loi du droit canonique. Ce droit canonique repose sur des fondements, sur des réalités, sur des analyses. Alors, il y a, pour répondre à votre question plus directement, il y a deux types deux catégories d'obédience, parce qu'en fait il n'y a qu'une seule franc-maçonnerie et elle est répartie en deux types d'obédience. Pour une part, des obédiences qui sont dites laïques, mais qui à mon sens sont plutôt anticléricales pour certaines, avoir par exemple certaines déclarations lors de la manif pour tous de la part de certaines obédiences maçonniques qui se disent laïques, qui ont été extrêmement virulentes à l'égard de l'Église. Et puis d'autre part, il y a des obédiences qui sont déistes et qui prétendent que pour entrer dans leur sein, eh bien, il faut croire en Dieu. La principale de ces obédiences, c'est la Grande Loge Nationale Française, qui est une obédience purement déiste. Il y a une déclaration de son grand maître qui est tout à fait représentative du problème de l'incompatibilité. Jean-Pierre Servelle, qui est le grand maître de la GLNF, déclare que pour entrer au sein de cette obédience, il faut croire en Dieu, mais de manière non dogmatique. Eh bien, pour un chrétien, et en particulier pour un catholique, croire en Dieu de manière non dogmatique, c'est probablement impossible, parce que ça veut dire que on abandonne le dogme au minimum de la Sainte Trinité, et qu'on croit que Dieu est une sorte de principe supérieur à l'homme, tout simplement.
C'est très relativiste.
C'est absolument relativiste. Quelle que soit l'obédience, de toute façon, on est dans le relativisme pur et dur. C'est-à-dire que pour la franc-maçonnerie, toutes les religions se valent. La franc-maçonnerie analyse la religion, je dirais, de manière un peu anthropologique, et non pas de manière théologique, et elle fait le constat que différentes religions possèdent une part de la connaissance, mais qui ne correspond pas forcément à ce qu'elle appelle la tradition primordiale, dont certains initiés seraient dépositaires.
Serge Abad-Gallardo, peut-être je ne vous l'ai pas demandé, mais jusqu'à quel grade vous êtes arrivé, vous, au sein de la franc-maçonnerie ?
Eh bien, j'ai donc été coopté dans les hauts grades. Il faut savoir que seuls 10 à 15% des francs-maçons sont dans les hauts grades. J'ai quitté la franc-maçonnerie lorsque j'étais à peu près au milieu du parcours. C'est-à-dire que j'étais depuis 2 ans au 12e degré et j'allais accéder au 13e et 14e degré, sachant qu'il y a 30 hauts grades au rite écossais ancien et accepté. Mais de toute façon, tous les rites ont un nombre plus ou moins important de hauts grades.
Alors on le disait tout à l'heure, il y a des catholiques qui font partie de la franc-maçonnerie, alors que depuis le début de la franc-maçonnerie, l'Église catholique s'est évertuée à dire le caractère incompatible de la franc-maçonnerie avec la foi chrétienne. Tous les papes l'ont dit au moins une fois pendant leur pontificat, même le dernier, le pape François, l'a dit aussi. Il a même, je crois, de mémoire, refusé un ambassadeur d'Amérique latine sous prétexte qu'il était franc-maçon. Est-ce que vous savez combien il y a de catholiques parmi la franc-maçonnerie? Est-ce que c'est quelque chose que un nombre qu'on peut connaître ou pas?
Alors, tout dépend de ce qu'on entend par catholique. Si je suis catholique uniquement parce que je suis de famille catholique et baptisé comme ça a été mon cas, je peux me poser la question de savoir si je suis vraiment catholique.
Alors ma question, ça serait, si je peux la préciser, et c'est souvent ce que vous avez dû entendre, c'est de savoir est-ce qu'il y a des représentants de l'Église catholique officielle au sein de la franc-maçonnerie. Par exemple, on dit souvent, voilà, tel évêque, il est franc-maçon.
Alors, il faut faire attention à ce que j'appelle la chasse aux sorcières, parce que le risque de cette impasse, c'est l'implosion de l'Église. C'est-à-dire que je crois me souvenir que Staline a fait l'objet d'une désinformation qui l'a conduit à purger son propre parti. Et il ne faut pas croire que l'Église est infiltrée par de nombreux francs-maçons. Il y a quelques prêtres, certainement. Personnellement, je n'en ai jamais croisé. Nous avons eu, il y a quelque temps, le cas de Pascal Vézin, qui était prêtre et franc-maçon. Je crois qu'il a été ordonné prêtre en 1996 et qu'il a ensuite intégré la franc-maçonnerie en 2001. On peut se poser la question de savoir si son engagement était vraiment réel, authentique, profond, puisque lorsque son évêque lui a expliqué qu'on ne pouvait pas être franc-maçon et catholique, ce que je pense Pascal Vézin devait savoir, il a opté pour la franc-maçonnerie et il est actuellement vénérable maître d'une loge.
Serge Abad-Gallardo, vous titrez votre récent livre « Je servais Lucifer sans le savoir ». Alors, expliquez-nous, peut-être succinctement, je sais, ça va être compliqué, mais pourquoi selon vous la franc-maçonnerie c'est une religion luciférienne, c'est-à-dire qui sert le mal, qui sert Satan ?
Mais tout d'abord, je citerai un auteur spécialiste de la franc-maçonnerie qui n'a pas été franc-maçon lui-même, mais qui nous explique que dans un livre, il s'agit de Ricardo de la Sierva, qui était un écrivain, au-delà d'être un homme politique, il nous explique que Satan n'a pas besoin qu'on lui rende un culte, il suffit qu'on s'éloigne du Christ. Voilà. Et c'est un petit peu ce que fait la franc-maçonnerie, qui considère, qu'elle soit déiste ou non d'ailleurs, que le Christ était un sage. Et donc dès lors où le Christ n'est plus qu'un sage et qu'il n'est pas Dieu et fils de Dieu, Dieu incarné, eh bien je crois qu'on sert Satan. Alors après il y a bien entendu des éléments plus probants. Je dispose de textes que je cite dans ce livre où on voit la franc-maçonnerie glorifier le serpent de la Genèse, où on voit la franc-maçonnerie glorifier Lucifer. Je prendrai comme exemple, je vais essayer de le faire, alors c'est difficile à la radio puisqu'il faut un côté un peu plus visuel, mais je prendrai comme exemple le signe du 18e degré que l'on va retrouver sur des dessins, notamment d'Eliphas Lévy, de Oswald Wirth, tous deux occultistes et francs-maçons de haut niveau. Et ce geste du 18e degré, on va le retrouver dans une statue de Baphomet, qui a été édifié par l'église de Satan à Détroit.
C'est le doigt, l'index vers le haut et l'index de l'autre main vers le bas.
Tout à fait. En fait, ce signe signifie ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, qui est une devise purement issue du gnosticisme, et qui est contraire à la foi de l'Église, puisque, si je me souviens bien, le Christ lui-même disait à ses apôtres « Moi, c'est d'en haut que je suis, et vous, c'est d'en bas que vous êtes ». Donc, cette devise du 18e degré, elle signifie simplement que le mal est équivalent au bien et que le bien est équivalent au mal, ce que nous contestons, puisque nous savons que Jésus a vaincu le mal définitivement et qu'il n'y a aucune commune mesure entre la bonté du Christ et la malignité de Satan.
Vous écrivez en page 121 que la franc-maçonnerie confirme que Lucifer et le serpent sont une même entité et sont considérés par la franc-maçonnerie comme les libérateurs de l'humanité. La franc-maçonnerie fait de Lucifer l'ami de l'homme, une divinité émancipatrice, incitant ce dernier à l'orgueil et à la révolte. Et vous citez le père Joseph-Marie Verlaine dans son livre « Quand le voile se déchire ». En résumé, le travail du serpent sagesse consiste à libérer l'homme de l'asservissement au joug de la foi qui le maintient dans les ténèbres de l'ignorance et à lui donner l'accès à la connaissance.
Oui, parce que même la franc-maçonnerie la plus déiste considère que l'homme va avancer vers la connaissance avec un C majuscule, mais par ses propres moyens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grâce divine, il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de salut, c'est l'homme par ses propres moyens. Et d'ailleurs, pour cela, il faut qu'il fasse partie de la minorité qu'il va être initié. Les autres, la grande majorité, l'immense majorité des profanes, n'auront jamais droit à ce chemin vers la connaissance, c'est-à-dire qu'ils n'en sont pas dignes.
Alors ce qui est paradoxal, c'est que la franc-maçonnerie veut, entre guillemets, libérer l'homme de la religion qui l'a servi, mais en même temps, la franc-maçonnerie se considère comme la religion de la République. Et ça a été dit d'ailleurs par plusieurs ministres français, vous l'écrivez dans votre livre.
Oui, la franc-maçonnerie est de toute façon, de l'aveu même de certains de ses dignitaires, à l'origine de la Révolution française. Quand on regarde les déclarations, les communiqués du Grand Orient, il n'y a pas à en douter. Voilà. Mais ce qui est compliqué avec la franc-maçonnerie, en fait, c'est que elle peut dire une chose et son contraire. Et cette possibilité lui est donnée par simplement l'effet du secret. C'est-à-dire que le jour où la franc-maçonnerie abandonnera le secret, eh bien, je pense que ça lui fera énormément de bien, parce que ça permettra à tout le monde de réaliser exactement ce qu'elle est, sa nature, et d'avoir un point de vue critique. Elle n'est pas seulement la religion de la République. Je pense qu'elle est une religion ésotérique et que même pour les obédiences qui disent ne pas faire de politique, elle en fait malgré tout. Parce que la politique, c'est quoi finalement? C'est essayer d'organiser la société en fonction de ses propres points de vue métaphysiques, c'est pas autre chose. Et c'est ce que fait la franc-maçonnerie à mon sens.
Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous démontrez bien, parce que vous l'avez vu personnellement, que la franc-maçonnerie influence donc les politiques, et vous le disiez à l'instant, influence par ses idées le débat sociétal. Et justement, un ancien franc-maçon converti nous le disait aussi l'année passée sur cette même antenne, que les questions par exemple du mariage pour tous, c'est des questions qui étaient apparues dans les débats des loges il y a 20 ou 30 ans, et à son époque, il en parlait déjà. Et dans votre livre, vous le dites aussi, les questions de PMA, GPA qui sont d'actualité en ce moment, ou les questions d'euthanasie, encore plus d'actualité, vous les traitiez, vous les débattiez déjà il y a 20 ans.
Bien, c'est-à-dire que si je reprends l'exemple du signe du 18e degré, ce signe est représenté par l'image de Baphomet. On le voit également sur l'arcane 15 du tarot, qui est l'arcane du diable. Et tous ces personnages tels qu'ils sont représentés sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils ont des attributs sexuels féminins et masculins. Donc, d'une certaine manière, on peut penser à la théorie du gender, bien que beaucoup pensent qu'il n'y a pas de théorie derrière ça. Moi, j'utilise cette terminologie. Et je démontre dans le livre que des termes qui ont été utilisés par la franc-maçonnerie, soit dans des documents maçonniques exposés en loge, soit dans des courriers envoyés aux représentants de l'État, se retrouvent de manière très surprenante dans le texte de loi. Par exemple, la sédation profonde en phase terminale, ces termes-là, ces expressions se retrouvent dans les textes de loi, dans le Code de la santé publique. Alors c'est vrai que là, mon éditeur va publier le 4 décembre un prochain ouvrage qui démontre que la franc-maçonnerie est à l'œuvre pour essayer d'imposer la légalisation de l'euthanasie. On le voit, je veux dire, on le voit, on le constate, il y a des éléments qui permettent de le démontrer. La franc-maçonnerie, en fait, on peut comprendre son point de vue par rapport à cette question, lorsqu'on sait que, finalement, son objectif vis-à-vis de ses initiés, c'est de les rendre parfaitement autonomes. L'objectif qu'elle poursuit, c'est de faire en sorte que chaque individu soit lui-même capable de définir ce qui est bien et ce qui est mal.
Et puis de décider de sa vie et de sa mort, finalement.
Absolument. Absolument. De la même manière que la franc-maçonnerie a apporté la contraception et l'avortement, elle veut apporter aujourd'hui l'euthanasie, de manière à ce que l'homme décide à la fois de sa vie et de sa mort. C'est-à-dire que l'homme s'affranchisse de Dieu, tout simplement.
Ce qu'on peut apprécier aussi dans votre livre, c'est que donc vous démontrez le caractère néfaste de la franc-maçonnerie sur l'homme, sous couvert de le libérer de l'asservissement de la religion, entre guillemets. Mais vous avez beaucoup de bienveillance envers les francs-maçons en tant que tels. D'ailleurs, souvent, vous dites que tout ça, ils n'en ont pas véritablement conscience de ce côté de religion luciférienne et de ces arrière-pensées cachées. La plupart n'en ont pas conscience, peut-être les grands maîtres en ont conscience. Mais voilà, vous êtes très bienveillant envers vos anciens frères et vous les exhortez même à prendre le même chemin que vous vers la véritable foi.
Mais oui, puisque ce sont nos frères devant Dieu. Les francs-maçons, d'ailleurs, sont des gens qui sont tout à fait respectables. Ce que je conteste, moi, c'est d'une part la doctrine de la franc-maçonnerie et surtout l'erreur, voire le mensonge, lorsque les gens sont au courant, qui consiste à dire qu'on peut être catholique et franc-maçon, ce que la maçonnerie ne cesse de vouloir nous expliquer, et qui est complètement faux depuis 3 siècles quand même. C'est-à-dire, il y a une espèce d'obstination qui est suspecte. Et d'autre part, quand on parle du joug de l'Église, je peux vous expliquer que le relativisme est un véritable emprisonnement. C'est-à-dire qu'on ne peut rien en loge si on n'est pas relativiste. C'est-à-dire, si on se croit partisan d'une vérité absolue, eh bien, on est contesté. Donc le relativisme est une espèce d'enfermement, de suppression de la liberté. On est obligé, d'une certaine manière, de croire que toutes les religions se valent. On ne peut pas dire en loge, parce que les discussions sur la religion sont interdites, eh bien finalement, moi, j'ai un point de vue sur la vérité absolue. C'est tout à fait, je dirais, hors sujet, et même assez malvenu. Et bien entendu, vous dites que je suis bienveillant vis-à-vis des francs-maçons, je ne peux pas être malveillant vis-à-vis d'eux, puisque j'ai fait partie de la franc-maçonnerie et que j'ai été trompé moi aussi. Je crois qu'il leur appartient, en toute liberté, et je la leur laisse volontiers, d'essayer de discerner le chemin qu'ils prennent en étant en franc-maçonnerie et le merveilleux chemin que leur offre le Christ.
Serge Abad-Gaillardot, merci à vous.
Merci de m'avoir invité.
Je rappelle donc que vous êtes ancien franc-maçon, converti à Lourdes, auteur de 2 ouvrages, « J'ai frappé à la porte du temple, parcours d'un franc-maçon en crise spirituelle », et puis le dernier, en 2017, « Je servais Lucifer sans le savoir », les 2 aux éditions Teki, votre dernier d'ailleurs est préfacé par Maurice Caillet, qui est aussi un ancien grand maître franc-maçon qui s'est converti, et vous nous le disiez, vous en préparez un autre en décembre 2018 qui va sortir. Serge Abad-Gaillardot, vous étiez aussi notre invité à l'occasion de cette conférence que vous allez donner ce soir devant les étudiants et autres, car cette conférence est ouverte au plus grand nombre, organisée par la pastorale des étudiants de Vendée au 10 rue La Fontaine. Ça se passe à La Roche-sur-Yon à partir de 20h30. Encore merci pour ce témoignage, ainsi il ne sera plus possible de dire « je ne savais pas ». Chers amis auditeurs, merci à tous de nous avoir suivis. C'est une émission à réécouter en podcast sur notre site internet rcf.fr. Je vous souhaite à tous une excellente soirée à l'écoute des programmes de RCF.